Alors, ce matin, nous sommes dans Luc 17, versets 11 à 19, Matthieu, Marc, Luc. D'accord? C'est le troisième livre du Nouveau Testament, Luc 17. Le titre de la prédication, c'est « Impur, à la marge de la société, mais au cœur de Dieu ». Le texte, Luc 17, 11 à 19, je lis pour vous. La Bible nous dit que Jésus se renda à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, verset 13, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, une histoire extraordinaire ce matin. Vous vous souvenez peut-être, il y a 2-3 dimanches comme ça, nous avons vu le temps de décision. Il faut se décider, prendre des décisions, s'engager à quelque chose. Je vous disais, il y a des gens qui ne sont pas sûrs d'être indécis. Ils sont tellement indécis dans leur vie que même quand ils sont indécis, on n'est pas sûr qu'ils soient indécis. Ils n'en sont pas sûrs. Et dans la vie, il faut arriver à prendre des décisions. Et la plus grande des décisions, c'est celle-là qui ressemble à la décision que Rahab avait prise, par exemple. D'accueillir Dieu dans sa vie, d'accueillir les messagers de Dieu dans sa vie pour que ça change. J'espère que depuis lors, vous avez pris des décisions. Vous en avez pris en tout cas ce matin si vous êtes ici, parce que vous avez décidé de venir ici. C'est une excellente décision qu'il faut répéter tous les dimanches. Alors donc, prendre des décisions. Maintenant, pour prendre des décisions, dimanche passé, nous avons vu que la décision que tu prends, il est important qu'elle soit accordée à la vision de Dieu dans ta vie. On prend des décisions pour des choses, mais il est important que toi, tu prennes des décisions qui entrent dans le cadre de la vision que Dieu a pour ta vie. Sinon, ta décision est une décision qui obéit aux priorités que toi, tu t'es fixées. Alors donc, il est important que tu connaisses la vision de Dieu. Nous avons parlé la semaine passée du savoir de Dieu sur ta vie et du savoir que toi, tu as sur ta vie. L'homme heureux, c'est celui qui réussit à amener son savoir et à le calibrer sur le savoir de Dieu et à ajuster et à mettre à jour ce qu'il sait de sa vie, ce qu'il sait de son avenir, mettre à jour ce que tu sais par rapport à ce que Dieu sait de ta vie. En recevant donc la vision de Dieu, le savoir de Dieu, ce que Dieu sait, parce qu'il dit, je sais quel projet j'ai conçu pour vous. Donc, il est important que tu saches quel projet Dieu a pour ta vie. Hein, si je viens vous dire, j'ai des projets pour toi, puis il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, il a des projets pour moi. Et puis vous allez dormir, ça ne vous inquiète pas. Il y a des gens qui ont des projets pour vous, vous avez intérêt à savoir quel type de projet ils ont pour vous. Hein, si le plus grand gangster du Canada vient vous dire, j'ai des projets pour toi, j'imagine que ça va t'intéresser. En tout cas, tu appelles le 911 en disant à quelqu'un qui a des projets pour moi, mais je n'aime pas ça. Mais le Dieu bon et grand a des projets pour toi, et puis tu ne te renseignes pas, tu ne te demandes pas, mais quels sont ces projets? Hein? Alors, et on laisse passer les choses. Alors, Dieu veut que tu mettes à jour ce que tu sais et que tu reçoives ces projets pour que les décisions que tu prends soient des décisions qui soient conformes à la volonté de Dieu et à ce que Dieu veut faire dans ta vie pour que tu sois heureux. Troisième chose aujourd'hui, impur, intouchable, à la marge de la société. Tu veux prendre des décisions, tu cherches la volonté de Dieu, mais ta vie est une vie que tu mènes à côté. Et Dieu veut que tu sois au centre. Et ce matin, il est important que nous sachions que nous sommes au centre du cœur de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle aujourd'hui de gens assez particuliers. Ces gens, ce sont des lépreux. Alors, l'histoire nous dit que Jésus-Christ est en route et se rend à Jérusalem, le verset 11, et qu'est-ce qui se passe? Il quitte, il ne choisit pas les grandes avenues avec, si on l'amène aujourd'hui dans notre contexte, les lampadaires, et puis l'escorte, et tout ce qu'il y a, et le flonflon. Il ne choisit pas ces voies-là, il va prendre un chemin, Il y a un chemin qui passe par un village dont on ne juge même pas nécessaire de nous donner le nom. C'est-à-dire quelque chose de banal, parce qu'il y a quelque part là quelque chose qu'il veut faire. Il sort donc des avenues et sur lesquelles on attend les grains. Il sort donc des chemins battus. Il va dans une région où il fait des rencontres assez intéressantes, et c'est ça qui nous intéresse ici. Alors Jésus se rend à Jérusalem et il passe entre la Samarie et la Galilée. Et il passe entre des entités qui sont des entités aussi spirituelles. Là où il marche et il rencontre des gens qui sont coincés entre des entités que ce matin je veux résumer comme étant des groupes qui sont des groupes fermés, qui sont des groupes avec leurs valeurs et qui sont donc des groupes qui excluent. D'accord? Alors, il passe ici, il passe donc dans une région où il rencontre des gens et ces gens vivent à la marge des grands groupes. Ces gens vivent à la marge de grandes cités où les notables sont admis. Ces gens vivent à la marge de tout ce qui est honorable et ces gens sont expulsés par ces grands groupes, ces grandes catégories que sont les Juifs et les Samaritains. Ils sont exclus et Jésus passe là où il les rencontre. Et ça, c'est majeur ce matin pour nous. Ce que le Seigneur Jésus fait ici, il sort de ce qui est normal et attendu. Et il va faire des rencontres inusitées, des rencontres qu'on ne prévoit pas sur son itinéraire quand on veut être en paix et tranquille. Alors, il laisse donc cet itinéraire normal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve dans un endroit où il peut aller chercher ceux qui sont à la marge des grands groupes, de la société bien assise. Alors, les Samaritains sont des gens qui avaient leur croyance par rapport aux Juifs. Et ces gens-là, vous vous souvenez, la femme samaritaine, par exemple, lorsque Jésus lui parle, elle dit, entre vous les Juifs et nous, il n'y a rien. Parce que vous pensez que vous avez l'affaire, vous avez les bonnes choses, vous connaissez le vrai Dieu, vous l'adorez de la bonne façon, et que nous, on est à part. D'accord. Mais entre vous et nous, il n'y a rien. Les Juifs regardent les Samaritains du haut en disant, ils se sont corrompus avec les croyances païennes, ils se sont corrompus avec toutes sortes de choses. Nous, nous avons gardé la doctrine. Nous, nous sommes vraiment dans le cœur des choses. Nous sommes le peuple de Dieu. Et les Samaritains regardent en disant, oui, vous nous méprisez, mais nous, on a notre fierté. Et ils sont aussi un groupe à part avec sa façon de fonctionner, se branchant encore à Dieu, au Dieu donc de l'Ancien Testament, il reste quand même un groupe à part. Et entre ces deux grands groupes qui se connaissent, qui se méprisent ou s'observent de loin, il y a des gens. Et ce sont ces gens-là qui nous intéressent ce matin. Ni juifs, ni samaritains, mais lépreux. Ni juifs, ni samaritains, dans le sens qu'ils ne sont pas inclus dans ces catégories-là, ils ne sont pas admis dans ces catégories, ils n'ont pas les privilèges des gens qui sont dans la bonne société, quelle qu'elle soit. Ils sont à la marge, coincés entre de grands groupes. Et Jésus va les chercher, il va les rencontrer. Il va donc rencontrer des gens qui sont rejetés par des juifs méprisants et rejetés par des samaritains fiers. Et c'est étrange. Parce que la Bible nous dit que celui qui est revenu voir Jésus, là, le lépreux qui était guéri, qui est venu voir Jésus, la Bible prend le temps de préciser que c'était un samaritain. Donc, ça veut dire que les autres étaient des juifs. Et c'est étrange de voir qu'il y a une catégorie qui rassemble toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur coloration. C'est cette catégorie des gens méprisés, des gens rejetés, des gens marginalisés, des gens exclus. C'est-à-dire, là où la lèpre a frappé, on ne demande plus, bon, toi, donc comme toi tu es d'origine juive, on va quand même t'accorder certains prix. Non, non, non. Lépreux, lépreux. Samaritain, lépreux, lépreux. Juif, lépreux, lépreux, quand même. Exclu. Et c'est là que les gens se côtoient et se rencontrent. Cette solidarité des gens rejetés. Et j'imagine, et ça c'est dans la nature de l'être humain, que même dans cette catégorie des gens rejetés, il y a des hiérarchies. Hein, sortez dans la rue, allez. Et dans la rue, voyez la bande, si vous voyez des mendiants, observez-les, regardez même les gens défavorisés. L'être humain, le cœur de l'homme est mauvais. La Bible dit qu'il est tortueux par-dessus tout. Donc, même parmi des gens défavorisés, il y a des hiérarchies. Et j'imagine qu'il se pourrait bien que ce lépreux samaritain, à côté de lépreux juif, se fasse dire parfois, bon, mais là, toi, quand même, s'il y a quelque chose à manger, toi, tu viens après nous. Il y a dans le mépris des degrés, rejeté par les gens qui sont rejetés ce matin, je ne sais pas quel type de rejet tu as vécu, à la marge de quel groupe tu vis. Nous sommes dans une société fermée. Hein, il suffit juste de passer, nous avons distribué des milliers de brochures pendant ces semaines. Passez devant les maisons. Quand le gros chien, nous avons exposé nos mollets, je dirais, pour ne pas dire autre chose, nous avons exposé nos mollets aux morsures des chiens. Mais parce que la société est fermée, c'est une société de clics. Le conducteur est de Ford. Hein? Bonjour. C'est du point de publicité. Et pour ceux qui sont dans la Ferrari, ceux qui sont dans. Donc, une société de clics. Ceux qui portent tel type d'habit, ceux qui habitent tel quartier, ceux qui travaillent dans tel secteur. Une société de clics, des gens qui se retrouvent, oiseaux de même plumage, qui marchent ensemble. Et quand tu ne fais pas partie, quand tu ne reflètes pas ça, tu as un problème. Tu as un problème sérieux. Et on voit même les enfants. Je parlais des enfants tout à l'heure. À l'école, ils reviennent et disent, oui, moi, ça ne marche pas. Pourquoi ? Exclu. Parce qu'il n'a pas la même façon de faire. Parce qu'il est différent. On dit, non, toi, tu ne fais pas partie de nous. Jusqu'aux enfants, c'est ancré en l'être humain. Et l'exclusion, quelle qu'elle soit, l'exclusion, la marginalisation, rejeter les gens. Et même l'Église, quand l'Église ne fait pas attention, l'Église devient un lieu d'exclusion. Là où Dieu n'a pas exclu, on exclut. Et l'exclusion fait partie du comportement naturel de l'être humain qui cherche à s'assurer son territoire. Et on bâtit des entités de ce genre-là. Et ce que le Seigneur Jésus fait ce matin, il sort et il fait le détour. Et c'est grâce à un détour de ce genre que moi je suis devenu chrétien et que ma vie a changé. Il va là où il va rencontrer, non pas les grands de la Samarie, mais là où il va rencontrer ceux que la Samarie a rejetés. Là où il va rencontrer ceux que les Juifs ont rejetés. Pour justement les renvoyer dans la cité, les renvoyer dans des places d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en marge de la société? Vivre en marge de la société, lépreux donc, impur, intouchable, quelqu'un qu'on ne veut pas toucher, quelqu'un dont on observe la vie et parfois tu l'entends, on dit « Oh non, je n'aimerais pas être à ta place ». Il y en a qui ont perdu leurs amis pour ça. « Je n'aimerais pas être à ta place ». Quelqu'un dont on n'aimerait pas prendre la place, quelqu'un qu'on préfère éviter, vivre à la marge de la société, exclu pour toutes sortes de choses dans ta vie. Le verset 12 dit, comme il entrait dans un village, la Bible ne nous dit pas ici, Luc, et qui écrit, et cet évangile ne nous dit pas c'est quel village, ce n'est pas important ici. Il y a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. 10. Une communauté donc déjà marginalisée. Des gens qui sont retrouvés, la solidarité des gens faibles, méprisés, rejetés par la société, rejetés par les grands groupes de l'époque, ils marchent ensemble, ils se retrouvent à la marge, comme lorsque les grandes vagues de la mer rejettent tout ce qui est mauvais, et à un certain moment, ça s'entasse quelque part, et on dit non, il ne faut pas aller là-bas, la plage est souillée. Là où, justement, la plage est souillée. Jésus va là et il voit ces 10 lépreux. Exclus. Anonymes. On ne dit pas leur nom ici. Tu n'as pas de nom dans la société. On ne compte pas avec toi. Quand on cite les bonnes personnes, toi, tu attends encore. Peut-être que tu te sens comme ça. Tu dis, il ne s'agit pas de nous d'abord. Les plus forts vont passer. Les plus beaux vont passer. Les plus riches vont passer. Mais nous, c'est quand notre tour. On n'est jamais compté. J'ai dit, ça me rappelle un peu quand on était petit, qu'on jouait au ballon. Puis tu es arrêté au soccer, puis tu es arrêté. Et puis bon, on prend 2 personnes et puis on dit de choisir. Et là, toi, tu as arrêté, tu attends. Tu te dis, bon, si on ne me prend pas le premier, c'est normal. Je ne marque jamais les buts. Mais quand même. Et deuxième, on ne te prend pas. Troisième, on ne te prend pas. Et à un certain moment, tout le monde a choisi et puis il reste 2 personnes qui se regardent au milieu et ce sont les 2 pousse-cailloux qui ne peuvent absolument rien faire. Et comme ils n'ont pas le choix, ils disent, bon, il reste 2, on est 2 camps, bon, choisissez où vous voulez aller là. Personne ne veut de toi. Et tu te dis, bon mec, où est-ce que je vais aller? Exclu, anonyme, sans nom, pas de filiation, pas de descendance qui s'affiche à côté de toi. Rejeté, pas d'affiliation quelconque, juste un nom, lépreux, intouchable, impur, rejeté, marginalisé. Non, on ne parle pas de toi. Et même par la suite, lorsque ces gens-là sont touchés, et pour qu'on justement, on voit comment la grâce de Dieu est puissante, on dit le lépreux un tel, la veuve un tel, la prostituée Rahab, rejeté, mais c'est l'ex, c'est quelqu'un dont Dieu a vu la souffrance et la marginalisation qu'il allait chercher, c'est extraordinaire. Stigmatisé, marqué, tu marches, et parfois ça c'est étrange, tu marches, tu as quelque chose en toi, quelque chose de honteux, et tu as l'impression que c'est écrit sur ton front. Même quand on n'en parle pas, tu penses que c'est de ça qu'on parle. Rejeté. Et ces gens-là, la Bible dit dans Lévitique 13, 45, en parlant des lépreux à l'époque, que le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Ouais. Lépreux. Parce que Dieu avait identifié cette lèpre biologique qui était guérissable. Si on dit ici que tant qu'il aura la lèpre, c'est que ce type de maladie était guérissable. Dieu disait, tant que tu as cette lèpre-là, tu es impur. Et il y a tout un rite ici qui vise à réintégrer l'ancien lépreux, celui qui est guéri dans la société, dans le peuple de Dieu, et qui passait justement par ce que le sacrificateur devait faire pour attester que la maladie était finie et pour faire le sacrifice nécessaire. Lépreux. Donc, en dehors du camp, rejeté pour justement recouvrer la santé avant d'être introduit à nouveau dans la présence de ceux qui sont purs et sanctifiés. Ce qui est merveilleux ce matin, c'est que Jésus n'est pas dédaigné. Je préparais ce message et puis je pensais à tout ce qui me rebute. Aucune offense pour les mangeurs de fromage, moi j'ai peur de ça. Et justement parce que je passe à côté d'un fromage et puis je dis, bon, si ça sent comme ça dehors, comment ça se passe à l'intérieur? Donc, j'ai peur de ça. Mais c'est extraordinaire. Et je suis entouré de gens qui en mangent et puis je les laisse ma part. Qu'est-ce qui te fait peur? Et j'ai regardé tout ce qui me rebute. Et j'ai regardé ma vie. Et j'ai regardé quand Jésus est venu me toucher. Et à l'époque, j'étais aussi lépreux, dédaigneux. J'étais quelqu'un qui n'était pas touchable, impur. Impur. Et le Seigneur Jésus, s'il n'était pas quelqu'un qui ne regardait pas ce qui est répugnant, mais qui dépasse les frontières pour venir te toucher. Cette femme qui souffrait de perte de sang pendant des années ne l'aurait pas touché. Il ne serait pas allé au milieu de la foule dédaigneuse. Il ne se serait pas arrêté devant Bartimée, cet aveugle qui crie, pour le guérir. Il ne se serait pas arrêté pour toucher certaines personnes. Mais le Seigneur Jésus-Christ, je me suis rendu compte, est quelqu'un qui n'est pas dédaigneux. Il a quitté la splendeur du ciel. Il a quitté les rues pavées d'or du ciel. Et il est venu pour toucher des gens que parfois, les gens que toi tu aimes, ta propre famille, n'osent même pas te toucher. Et il vient et dit, c'est pour toi que je suis venu. Ces détours-là dont parle la Bible ce matin ici dans Luc 17, parle de ce type de touche. Où le Seigneur, il vient, il sort de la rue pavée et il vient à la marge pour toucher des gens que personne ne veut toucher. Vivre loin des catégories et loin de ce qui est beau. Et Jésus-Christ vient dire, non, je ne suis pas dédaigneux. Comme il entrait dans ce village, les lépreux viennent à sa rencontre. Et il prend le risque à cause de ça, de rencontrer ceux que personne ne veut rencontrer. Moi, quand j'étais petit, j'ai demandé au frère Augustin qui est ici ce matin, est-ce qu'il se souvient parce qu'on a grandi dans la même zone? Il y a un dispensaire qui était à côté de chez nous. Et dans ce dispensaire-là, on amenait les gens qui souffraient de la maladie du sommeil et qui souffraient de la lèpre. Et j'étais petit et je passais. Donc, c'était un camp dans lequel on amenait les lépreux. D'accord? Et des lépreux dans un stade parfois très avancé, c'était aussi un mouroir. Il y en a qui mouraient là. Et je passais, tout petit, et pendant la saison des pluies, alors les herbes sont hautes, et il y a le mil, et puis tu marches, et tu ne sais pas qu'il y a un lépreux qui est assis de l'autre côté. La frayeur, la frayeur que je ressentais lorsque, au détour du chemin, je voyais ces lépreux assis comme ça. Assis parfois en train de mendier, parfois assis en train de vouloir regarder comment la société vit, comment les gens passent. Parce qu'ils sont enfermés entre eux avec les moyens qui leur restaient. Avec toutes ces choses qui étaient en train de... Ils se voyaient partir par petits morceaux. Ces gens-là, je les voyais et j'étais saisi. Ce matin, j'ai voulu vous épargner, je n'ai pas pris les photos. Mais oui, c'est sérieusement. Honnêtement, je voyais le PowerPoint, j'avais les photos. Mais j'ai voulu vous épargner ce matin. Et je les voyais. Et je sursautais et j'avais toujours peur d'en voir un là, assis là, ne se déplace pas vite parce qu'il a perdu, ne se déplace pas vite, a besoin d'aide. Et j'avais hier soir, je repensais à tout ça et puis je revois encore le sursaut hein, instinctif qu'on éprouve face à des gens comme ça. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Le lépreux sur sa route n'était pas quelqu'un d'imprévu. C'est lui qu'il cherchait. Moi, je courais lorsque je voyais qu'ils étaient à côté. Alors, je courais vite. Et je courais là. Et soufflé, je disais non. J'avais peur de cette lèpre-là. Et Jésus, il fait le tour. Il prend le temps. Il prend le risque de rencontrer ceux que personne ne veut voir. De les voir. Il prend le temps de sentir ce que personne ne voulait sentir. Parce que quand cette maladie-là commence à bouffer et à faire des choses sur la peau et tout ça, j'imagine que ça ne doit pas toujours sentir comme l'eau de Cologne. Il prend le temps de sentir ce que personne ne veut sentir. Il prend le temps de traiter avec ce que personne ne veut approcher. Ils se parlent, ils s'entendent. Même si les lépreux se tiennent à distance, ils se parlent quand même. Il a le temps de voir et de savoir que ce sont des lépreux et de leur parler et de leur donner des indications qui vont sauver leur vie. Jésus prend ce temps-là. Et ce matin, le message s'adresse d'abord, pour commencer, à l'Église, à vous et à moi. Il y a des lépreux encore autour de nous. Il y a des lépreux, visiblement. Des gens qui ne sont pas fréquentables. Des gens qui, justement, comme moi, devant les lépreux que je voyais, et qui nous font sursauter. Des gens pour qui on vit comme si l'amour de Christ ne s'adressait pas à eux. Ils ne sentent pas encore l'eau de Cologne, ils ne sentent pas encore l'encens du ciel. Des gens qui, honnêtement, lorsqu'on doit les voir, oui, parfois, le cœur te lève. Je me souviens en Allemagne, quand j'étais assistant pasteur, le pasteur Bernard et moi, on partait rendre visite à des gens. Et il y a un quartier d'itinérants dans lequel nous allions. Et je vous assure, nous sommes entrés et sous des tentes, nous avons vu des gens dans des conditions où, quand tu sors de là, tu laisses passer quelques heures avant de manger. Mais Jésus-Christ aime ces gens-là aussi. Je me souviens, nous avons pris le café dans des thermos et nous sommes allés dans des lieux que peut-être si vous voulez bien aller les voir, ceux qui partent en Allemagne avec nous, vous irez voir s'ils sont encore là. Et des gens qui étaient là dans le froid et qui ne s'attendaient à aucune visite, mis de côté, rejetés, et qui attendent. Et qui attendent juste une tasse de café, une tasse de thé pour se réchauffer. Et ce matin, le Seigneur dit, les quartiers de Saint-Jérôme, est-ce que tu les connais? Qui est-ce que tu attends? Parfois on prie, on dit, Seigneur, envoie les bonnes personnes. Mais dans la définition des bonnes personnes, c'est ceux qui sont en trois pièces et qui roulent avec, je ne sais pas moi, la Audi ou la Ferrari. Et le Seigneur dit, oui. Ces gens-là ont une lèpre dont on va parler plus tard. Mais et les autres, ceux qui sont un défi pour ton cœur. Imagine comment le péché était un défi pour moi. J'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit, je suis prêt à aller aussi loin que je pense que le Seigneur est allé pour moi et pourrait aller pour moi. Je répète, tu es prêt à aller aussi loin que tu penses que le Seigneur est allé pour toi et pourrait aller pour toi. Parfois, les chrétiens, ils reculent. On va poser les chaises et puis un tel est assis là-bas. Oh, attention, mon parfum coûte trop cher pour que j'aille le souiller à côté de quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 2 semaines. On ne dit pas ça, hein? Mais parfois on le vit. Et le Seigneur nous demande, il dit, vous voulez gagner des âmes pour moi? Je ne suis pas dédaigneux. Est-ce que tu es dédaigneux ce matin? Est-ce que c'est un défi? Oui, c'est un défi. Mais est-ce que tu sais que Dieu est descendu dans des profondeurs qui n'avaient absolument rien à voir avec l'encens du ciel pour sauver des gens et certainement aussi te sauver. Je me suis rendu compte que ce qui nous retient en tant qu'Église parfois, en tant que chrétien, d'aller loin et chercher ce qui est perdu, c'est l'inconscience de la distance que le Seigneur a parcourue pour nous sauver. On pensait, oui, bon, je n'étais pas tout à fait mal, quand même. Je sentais quand même un peu bon quand tu es venu me chercher. Donc, c'est correct. Et le Seigneur dit non, ton péché, il puait jusqu'au ciel. C'est ça qui m'a amené sur la terre, sans offense ce matin. Si nous réalisons quel chemin Dieu, Jésus-Christ, a fait pour nous sauver, alors notre cœur va battre de manière plus intense pour ceux qui sont loin de nous et qui sont loin de nous ressembler avant que Jésus-Christ ne les touche. Alors, nous allons être prêts à nous retrousser les manches pour nous laisser contaminer, toucher par cette compassion de Dieu et aller là où le Seigneur justement a fait le détour pour aller chercher des gens que personne n'aurait vu s'il n'avait pas fait ce détour-là. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Les grands de ce monde, lorsqu'ils visitent les grandes villes, par exemple, vous recevez une visite ici, on ne les amène pas dans les taudis. On dit non, Obama arrive au Canada, on ne l'a pas amené dans les quartiers les plus pauvres et les plus compliqués du Québec et du Canada, non. Dans certains pays, on va jusqu'à construire des cloisons s'il le faut et on improvise de l'art là-dessus pour masquer les taudis, pour que lorsque le cortège présidentiel passera, qu'ils ne voient pas ce qui se passe derrière, qu'ils ne sentent pas la mauvaise odeur de gens rejetés par la société, qu'ils ne voient pas que leur œil habitué aux choses importantes et précieuses et resplendissantes de ce monde ne soit pas agressé par la puanteur, la laideur et les moignons de l'épreuve de la société. On les protège, on construit des barricades, on établit ici des obstacles pour empêcher qu'ils voient ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, enlevez les barricades, laissez-moi sortir du cortège. Je veux aller voir. Il y a des lépreux qui ont besoin d'une visite aujourd'hui. Et ça, c'est ma vie. Et ça, c'est la vie de beaucoup de gens qui ont reçu une visite inattendue un jour. Et ça, c'est Jésus-Christ, ça lui ressemble, c'est pour ça qu'il est venu. Il dit, je n'ai pas besoin qu'on me masque la vue. Je suis venu pour voir, je suis venu pour toucher et pour guérir et pour transformer. C'est pour toi ce matin. Des gens qui ont suivi cette voie-là sont devenus célèbres. Mère Teresa, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Mère Teresa? Cette femme est devenue célèbre en s'occupant littéralement des lépreux. Des lépreux. Il y a plus de joie à s'occuper de ce qui est laid que de ce qui est beau. Et Jésus-Christ a la joie parfaite parce qu'il a manifesté cet amour là où on l'attendait le moins. Il faut maintenant ce matin pour ce que nous allons faire en tant qu'Église. Et la vision de l'Église, c'est ça. Nous allons de plus en plus aller vers ceux qui ont besoin de l'aide. Et ce matin, je vous disais, nous allons faire l'aide au devoir, oui. Nous voulons nous occuper d'enfants et qui, sans une intervention, sans le détour que nous prendrons en tant qu'Église et en tant qu'adultes ici, capables d'aider des enfants, sans le détour dans ta semaine, de 2 heures, 3 heures à l'Église pour aider des enfants, ils seraient perdus et exclus. Nous allons faire ce détour-là. Nous allons faire le détour pour aller chercher des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Ils veulent travailler, ils veulent de l'aide, mais ils n'ont personne pour les accompagner dans ça. Nous allons faire le détour et nous arrêter quand il le faudra pour parler à dire lépreux. S'arrêter et dire, ta vie peut changer. Et ta vie peut changer. Et nous sommes un outil dans les mains de Dieu pour que ta vie change. Et nous l'avons vu et nous voulons être participants de ça. Lépreux, impurs, intouchables, mais nous venons te toucher parce que nous avons été touchés par quelqu'un de plus fort, par quelqu'un d'aimant et de compatissant. Et ça, il y a plus de choix à le faire que de s'occuper de ce qui n'a pas besoin forcément d'être soigné. Ce matin, le Seigneur, il dit, les grands de ce monde ne vont pas visiter les bidonvilles quand ils sont en mission, mais ma mission consistait justement à aller dans les bidonvilles, à aller dans les quartiers difficiles, à aller là où les gens ont besoin d'être sauvés. Ce matin, maintenant, il y a 2 types de foi qui se manifestent dans ce passage et qu'il faut voir pour finir. La foi d'abord qui guérit de la lèpre physique. Verset 13. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ces gens-là, ils ont vu Jésus et ils n'ont pas demandé à être guéris. Ils lui ont demandé, aie pitié de nous. Ils n'ont pas dit, guéris-nous. Ils n'ont pas dit, donne-nous de l'argent. Et ils ont dit, notre vie est une vie misérable. Toi qui connais le besoin, aie pitié de nous. Ils parlent au cœur d'un Dieu compatissant. Ils disent, Jésus, maître. C'est un maître qui ne règne pas pour piétiner les gens, mais qui règne pour restaurer les gens. Ce matin, le Seigneur veut susciter cette foi-là dans ton cœur. Jésus, maître, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Touche ma vie, toi qui sais exactement ce dont il est question. Change ma vie. Nous avons prié ce matin et vous savez, quand on prie comme ça, il dit oui, le pasteur, oui, il avait envie qu'on prie ensemble ce matin et puis ouais, il vient et puis il se chauffe devant. Non. Nous avons simplement fait ce que les lépreux ont fait ici. Aie pitié de nous. aie pitié de nous, avec foi, aie pitié de nous. Et ce qui se passe, c'est que non seulement le Seigneur les voit, il les écoute, et il leur dit ceci. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ces gens-là savaient pourquoi. Parce que c'est le sacrificateur qui a identifié que là, c'est impur. Et c'est lui, le verdict, c'est lui qui l'amène. Et c'est lui aussi qui atteste que tu es devenu fréquentable et que tu es pur. Et tout ce qu'il faut faire pour que tu sois réintégré dans la communauté des gens purs, les sacrifices et tout, c'est lui qui les fait. Alors il dit, va les voir, ça va être, c'est lui qui va pouvoir attester de ce que tu es. Mais quand il partait, il n'était pas encore guéri. On dit, mais attends Seigneur, moi je suis allé dans leur église là, et ils ont dit que leur Dieu, il aide les gens. Et ils m'ont dit, va prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ici, va te montrer au sacrificateur. Il dit, mais Seigneur, nous avons dit, aie pitié de nous, tu nous envoies vers le sacrificateur qui nous a déjà rejetés. C'est quoi l'histoire? Explique-nous encore un peu. Et il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et la Bible dit que par la foi, pendant qu'il chemine pour aller se montrer au sacrificateur, il arriva qu'il fut guéri. Dieu attend que tu mettes le moteur de la foi en marche pour que la guérison prenne place dans ton corps. Dis lépreux, rencontre Jésus-Christ. Dis lépreux, retourne avec une parole de Jésus-Christ. Dis lépreux, prennent leur courage à deux mains et retourne dans la ville pour voir celui qui a identifié qu'ils sont lépreux et qu'ils sont impurs. Et dis lépreux, reçoivent leur guérison pendant qu'ils sont en train d'obéir à la parole que Jésus-Christ leur a donnée. Ça, c'est un enseignement pour nous. Ce matin, tu es ici, puis tu dis, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Et Jésus-Christ te dit, est-ce que tu as reçu une parole de moi? Je t'ai dit, crois seulement, et tu verras ce que je vais faire pour toi. Je vais changer ta vie. Mais en attendant, marche sur ma parole. Marche avec ma parole. Obéis à ce que je te donne. Et les gens disent, et il y a toute une comptabilité étrange qui se fait. Seigneur, quand tu auras agi, je commencerai à obéir. Et il dit, l'obéissance est le cadre dans lequel l'exaucement s'opère. Et tu dis, non, la parole ici est trop compliquée pour moi. Lépreux, difficile à marcher, en tout cas que sais-je, peu fréquentable, tu me renvoies là-bas, moi je connais ça déjà. Et le Seigneur dit, avant tu y étais sans ma parole, maintenant moi je te donne une parole. Je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie. Et quand tu arriveras devant le sacrificateur, tu dis que c'est Jésus-Christ, le maître qui a dit de venir nous présenter à toi. Et la guérison a lieu. Ils ont une foi ici qui nous enseigne que la guérison vient pendant que tu marches. Il y a beaucoup de chrétiens qui quittent même des ministères. Ils disent, non, moi je servais, Dieu n'a pas réagi, il ne m'a pas touché, il ne m'a pas aidé, laissez se faire, ça ne sert à rien, j'abandonne. Et le Seigneur Jésus dit, pendant que tu marches, lépreux marchant avec la parole de Dieu, la grâce de ton Dieu te touchera à un certain moment, sois sûr de ça. Les gens se désespèrent, les chrétiens marchent, et puis ils marchent et ils se disent, j'ai pris. J'obéis, je marche et rien n'arrive. Alors on va arrêter ça ici. Et le Seigneur dit, lépreux, marchant avec la parole de Dieu, la grâce de Dieu, la guérison de Dieu te touchera pendant que tu marches. Pendant que tu marches. Pas pendant que tu es assis en train de dire, tant qu'il n'a rien fait, moi je ne bouge plus d'ici. Tu vas prendre la rouille. Tu vas prendre la rouille et il se pourrait que tu manques quelque chose de précieux. Il est important ce matin, peut-être que tu es même dans ça. Hein, tu as déjà même décidé d'arrêter tout ça. Tu as décidé de ne plus rien faire parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière. J'en ai vu beaucoup comme ça de chrétiens. Le Seigneur te dit, pendant que tu marches sur ma parole, je vais te toucher parce que je t'ai donné une parole qui change la vie. Et tu vas marcher sans te fatiguer parce que je suis avec toi et je vais te soutenir. La lèpre physique est vaincue ici. Ces gens-là peuvent réintégrer la société. Ce que Jésus-Christ fait pour commencer, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est qu'il te rend fréquentable. Il te rend fréquentable. La lèpre part. Tu retournes et puis on peut attester, oui, c'est correct. Tu es des nôtres maintenant. Tu peux rentrer dans le circuit des gens normaux. Mais la normalité est dangereuse. Est-ce que vous savez ça? C'est ça le piège. Ils ne vont pas en ville pour se faire dire qu'ils doivent retourner à la marche. Cette fois, ils entrent de manière triomphale. Nous, on était des lépreux, mais maintenant, on est purifiés. On n'est plus les lépreux. N'était-ce pas les lépreux qui étaient en dehors de la ville? Oui, mais maintenant, ils sont purifiés. Jésus-Christ les a touchés. Regardez les mains, regardez partout où il y avait les taches de lèpre, il n'y en a plus. On est purifiés, on peut rentrer dans la gloire de la société. Mais maintenant, est-ce que Dieu a fini d'agir? Non. La foi qui sauve de la lèpre physique n'est pas suffisante pour que tu rentres au ciel. Ça prend une foi qui sauve la lèpre intérieure. Et ici, le verset 15 dit, « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. » C'était un Samaritain. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a 10 personnes qui ont été guéries. Il y a 9 qui sont rentrés dans la normalité de la société. D'accord? Ceux-là, ils sont devenus des citoyens normaux. Ceux-là, ils sont allés, ils se sont fait agréer et ils sont rentrés dans le circuit. Ceux-là, ils sont fréquentables. Les 9-là, ce sont des gens qui ont quitté la marche. Ce sont des gens qui ont été approuvés par l'autorité spirituelle, certainement, puisqu'ils ont continué. La Bible nous dit qu'ils sont allés. Ceux-là, ils ont choisi et ils ont pris le bénéfice de la bénédiction tout de suite, mais ils ont oublié qu'il y a mieux encore à gagner. Et beaucoup de gens viennent à la foi de cette façon-là. On a des besoins. Et ce sont des besoins. Moi, j'étais malade. Quand je suis devenu chrétien, là, j'étais malade. Et c'est la maladie et la détresse qui m'a amené à Jésus-Christ. J'étais malade, je ne savais plus quoi faire, et puis j'avais les menaces dans le dos et tout ça. Et je suis devenu chrétien à cause de ça. Je dis, Dieu de mon père André, qu'il a prié et dont il m'a parlé pendant longtemps. Maintenant, je veux que tu m'aides. Si tu existes vraiment, Jésus-Christ, fais quelque chose pour moi. Il m'a touché. J'étais malade. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Alors, on vient à Jésus-Christ. Alors, je suis malade, touche-moi. Jésus te touche et puis tu retournes dans la société. Et tu oublies. Il m'a touché. Beaucoup de gens. Et ce matin, peut-être que tu es là et puis tu dis, tu as un besoin. Oui, et Jésus est intéressé à guérir ta lèpre, à te toucher pour te bénir. Mais est-ce qu'après t'avoir béni, tu partiras? Et tu diras, j'étais venu pour ça, comme dans le supermarché, j'ai acheté ce que je voulais acheter. Je l'ai eu, bonjour, salut. Ou est-ce que tu as cette foi qui te donne non pas seulement ce qui est bien, mais ce qui est mieux, la vie éternelle? Beaucoup de gens, j'ai vu des chrétiens touchés, j'ai vu des chrétiens guéris miraculeusement, et qui après, tu penses qu'après ça, oh ces gens-là, ils vont carrément même rentrer dans le ministère. Oh, Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie. Mais ils avaient la foi pour guérir de la lèpre. Ils n'avaient pas la foi pour aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu des gens pleurer et demander que Dieu les touche, que Dieu les aide. Et parfois, je vous dis une chose, parfois l'exaucement ne vient pas parce que le Seigneur sait que tu l'aimes pour la guérison et pas pour le salut et la relation. Oui. Et les chrétiens sont surpris. Oh, on a prié, on a jeûné. Oh, Dieu de grâce! Fais donc, oui. Et est-ce que le Dieu de grâce dont tu parles, est-ce que tu veux la relation avec lui? Est-ce que quand il va te toucher, tu vas retourner dans la société? Avant, oui, je ne pouvais pas travailler parce que j'étais malade. Oh, il m'a touché, je suis guéri maintenant, je retourne dans la catégorie des gens qui travaillent. Dieu, salut. Ou est-ce que tu vas chercher la relation avec lui? Il est intéressé à ça. 10, 9 sont allés vivre comme des citoyens normaux avec la société. Ils sont retournés dans la normalité de la société. Vivre avec Jésus-Christ, c'est retourner dans la société avec Jésus-Christ. Pas juste avec la bénédiction. Les chrétiens, même les chrétiens, viennent dans l'église, prient Jésus-Christ jour après jour, asseyent le trône de grâce pour prendre les bénédictions et aller dans le monde avec. Et quand c'est fini, ils reviennent. Et Jésus-Christ dit, non. Et à un certain moment, les prières ne sont plus exaucées. Mais Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas? Parce que tu viens et puis c'est comme ton réservoir, tu prends l'essence, quand c'est vide, tu reviens. Et on a, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis même, et on a même peur de dire que c'est Dieu qui nous a touchés dans le monde. Parce qu'on n'est pas avec lui. On est avec sa bénédiction, mais pas avec lui. On a peur, on a honte de témoigner que c'est lui qui nous a touchés, que c'est lui qui nous a bénis. Parce qu'on est allé juste chercher une bénédiction en dehors de la ville, là où on n'était même pas fréquentable, pour revenir dans la société et dire que moi aussi je suis quelqu'un. Et le Seigneur dit, tu n'es rien sans la grâce qui t'a touché lorsque tu n'étais même pas fréquentable. Attends un peu de retomber dans l'impureté, tu vas voir, ils vont te chasser. Tu penses qu'ils t'aiment? Non. Non. Et on a peur, et on a honte, et on hésite. Moi je dis, lorsqu'on parlait pour ma fille, les gens, quand j'ai envoyé le message aux collègues à l'université pour annoncer la naissance de Sephora, je leur ai dit, on voulait que ma femme avorte, on avait dit que tout était fini, mais Dieu a refusé Je vais témoigner de ce que mon Dieu a fait. Ah, belle famille, tu as un enfant? Oui, merci, oui. Non, 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 je l'ai parce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Ah bon? Et alors les gens sont là et puis disent, oh, oui, ça arrive. Oh, ça arrive, moi ça m'est arrivé. Mais c'est vrai. Et parfois on est gêné, on est vraiment gêné. Mais oui, pourquoi rougir? Est-ce que quand tu demandais, tu rougissais? Oui, mais de souffrance et de pleurs et de détresse. Mais pour parler de ça, on a honte. Alors le Seigneur te dit ce matin, vois-tu, très souvent tu viens dans ma présence, tu cherches la bénédiction que tu peux montrer. Mais est-ce que tu me cherches? Et quand tu montres ta bénédiction, est-ce que tu me montres avec? Ça là, on appelle ça une usurpation des droits d'auteur. Dans mon monde à moi, à l'université, quand j'écris quelque chose, je parle de quelque chose, et que ce n'est pas moi qui ai inventé ça, je mets une note, et puis mon ordinateur m'envoie en bas de la page, et puis je mets l'auteur. Il dit ça, je l'ai pris de tel livre, à telle page, le livre a été publié par un tel, et voilà. Les chrétiens vont, et puis ils citent les choses. Je suis guéri, je suis en bonne santé, j'ai un travail, j'ai un enfant. Et puis ils ne citent pas les sources. Ils ne citent pas les sources. On appelle ça une usurpation. Il y a des lois contre ça. Est-ce que vous savez? Il y a des lois contre ça. Et le Seigneur dit, vous, les neuf là, ils sont allés, ils ont volé les droits d'auteur. Ils ne citent pas leurs sources. Ils sont repartis, ils sont partis, ils se sont montrés, et puis ils sont partis, ils ont intégré la société normale. Ils disent, avant, on ne pouvait pas s'asseoir ici avec vous, mais maintenant, on peut s'asseoir avec vous. On est des gens normaux. Oh oui, mais toi, tu n'étais pas le premier. J'ai ici le certificat du sacrificateur. Je suis correct. Laisse-moi tranquille. On est normaux. Mais pourquoi tu es normal? Parce que Jésus t'a touché là où tu n'étais pas normal. Est-ce qu'on peut commencer à le dire? À dire, oui, j'ai des sources à vous donner. Je dois vous citer par honnêteté intellectuelle et spirituelle. Je vais vous donner mes sources. C'est Jésus-Christ. Il vient pour te toucher. Et beaucoup de prières seraient exaucées si nous ne venions pas chercher juste la bénédiction à montrer en coupant le reste des références. Jésus-Christ. Le salut a un nom. La guérison a un nom. La paix que j'ai ce matin a un nom. La protection dont moi je bénéficie lorsque je sors de ma maison a un nom, c'est Jésus-Christ. Le fait que mon couple tienne, il y a un nom, c'est Jésus-Christ. La santé de mes enfants a un nom, c'est Jésus. Et je veux dire que ça, ce n'est pas contestable, ce serait mépriser la personne que je suis. Je le vis, donc s'il vous plaît, vous respectez ce que moi je dis de ma vie. Je l'ai expérimenté, c'est au moins jusqu'à la fin des discussions. Ça a un nom, je peux l'attester, c'est moi qui le vis, ce n'est pas toi qui le vis. Donc, ça a un nom. La guérison de la lèpre a un nom, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur, il veut maintenant te toucher. Il dit à ce lépreux qui est revenu, le Samaritain, donc le plus petit là, entre les rejetés, il dit, cet étranger, celui qui n'a même pas accès vraiment, celui qui est exclu, il dit, mais attends, comment ça se fait? Celui-là, il revient et le verset 15 dit que et il est revenu pour glorifier Dieu. Glorifier Dieu, et pas en disant, Jésus-Christ, merci beaucoup parce que toi, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Non, non, non. Je suis surpris la manière dont les gens répondaient lorsqu'ils n'étaient pas encore touchés par Jésus-Christ. Ils répondaient à l'appel. Ils sautaient à se rompre les articulations dans les boîtes de nuit et ils criaient à se fendre toutes sortes de choses dans les boîtes de nuit. Et on vient à l'église ou bien on chante les chants de Dieu, puis on chante. Puis on se dit que c'est la faute de celui qui a choisi les chants. Ils ne sont pas vraiment entraînants. Puis on dit, louons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Et puis on se dit, ouais. On dit, celui-là, il a été touché. Et quand il revenait, il louait Dieu, il glorifiait Dieu à haute voix. On l'entendait. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, c'est un lépreux que Dieu a touché. Il est fou? Oui, il est fou de Dieu parce que Dieu l'a touché. Est-ce que Dieu t'a touché? Si Dieu t'a touché, j'imagine vous acclamez et c'est bien de le faire. J'imagine, suivez-moi un peu. Et puis on va dire que c'est un lépreux comme celui que moi je voyais, ce que je voyais. Et lorsque les moignons recommencent à pousser là, où la peau devient, on peut revoir encore. Et puis Imaginez comment il acclamait son Dieu. Non, mais je veux dire, lorsque la lèpre peut-être a fait que les lèvres étaient devenues un peu étranges, et que subitement, donc, la guérison a pris place. Imaginez quelle louange sortait de cette bouche-là. Je veux dire, lorsque les orteils repoussent et que les articulations commencent à refonctionner, et puis les membres qui étaient en partie donc perdus renaissent, imaginez comment ils sautaient pour son Dieu. Ils revenaient et glorifiaient Dieu à haute voix, dit la Bible. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit dans la tienne aussi. Les enfants de Dieu veulent une bénédiction puissante pour une louange délicate. Oh, touche-moi, et je te louerai. Que ta bénédiction resplendisse comme le jour dans ma vie, et je me tiendrai tranquille avec la reconnaissance dans mon cœur. Non, il veut t'entendre. Il veut t'entendre. Il veut que les gens sachent qu'il t'a touché. Je dis souvent, et on l'a dit à plusieurs reprises, les chrétiens vont mentir les pasteurs. Parce qu'on dit Dieu agit, ils sont assis. On dit Dieu fait des miracles, ils sont tranquilles. On dit Dieu guérit, ils sont tranquilles. Je dis, mais c'est pas possible, est-ce que c'est vrai, c'est moi qui, je n'ai pas bu trop de café, je suis correct. Est-ce que j'ai enregistré vraiment? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas déjà des lépreux qui louent, qui glorifient Dieu? J'ai foi que si ça nous touche et si nous comprenons, le culte change. Les sapeurs-pompiers risquent de venir ici dimanche prochain en disant, mais... On dirait qu'au 357 Gauthier, il y a un problème. Je dis oui, il y a un problème parce que vous n'avez pas encore été touché. Nous avons été touchés, mais venez donc voir. Il y a peut-être des lépreux qui vont entendre un lépreux crier et sauter qui vont chercher Jésus-Christ. Qu'en pensez-vous? Est-ce que quelqu'un peut t'entendre crier sur l'onction de Dieu dans ta vie, la guérison de Dieu dans ta vie, et dire, mais c'est Jésus-là? C'est de quoi s'agit-il? C'est quoi ton... Est-ce que quelqu'un peut t'entendre et venir et dire, oui, si tu l'as fait pour les 10, et si j'ai entendu au moins un, tu peux le faire pour moi aussi. Le Seigneur dit qu'il y a une lèpre qui est intérieure. Et ce matin, tu dis, bon, moi, mais tout est correct chez moi. Mais vois-tu, la purification est une purification qui dépasse la lèpre physique. Il y a une lèpre dont le lépreux qui est revenu voir Jésus-Christ a été guéri. La Bible dit que Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Nous sommes sensibles à ce qui brûle la peau de l'extérieur. Mais il y a une lèpre intérieure qu'on ne voit pas et que le costume cache bien, les cravates bien nouées, et puis on marche, et le parfum, et tout, et on marche, et puis on est correct. Et le Seigneur dit, intouchable. Intouchable, impur. Et ça, c'est le péché. C'est ce qui ronge ta vie de l'intérieur. C'est l'inimitié, c'est l'amertume, c'est le manque de pardon. C'est le manque de réconciliation avec Dieu. C'est la perdition. C'est la perdition. Séparé de Dieu. Et Jésus dit, tu as eu la foi, tu es venu à moi, j'ai guéri ton corps, tu es revenu à moi. La foi que tu as est une foi qui te donne la vie éternelle. Les lépreux aussi meurent, mais s'ils croient en Jésus-Christ, ils ressuscitent pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Il y a eu 10 lépreux guéris. Et j'imagine qu'au jour du jugement, si les 9 autres lépreux n'ont pas eu la chance, l'occasion, le courage de se donner à Christ pendant le temps qui leur restait, au jour du jugement, il y aura 10 lépreux devant le trône de Dieu. Un lépreux se lèvera et le Seigneur dira, ta foi t'a sauvé. Viens, je te connais toi. Tu es le lépreux qui va et qui revient. Et il y aura 9 autres lépreux qui se lèveraient peut-être, s'ils ne sont pas donnés à Christ après, et qui diraient, nous étions ensemble, nous avons ensemble reçu la même parole, et ensemble nous étions sur la route en train de marcher, clopinant, pour aller voir le sacrificateur, et ensemble, au même moment, nous avons été guéris. Et ensemble, nous voulons aller, nous les 9, nous asseoir sur le trône, là où tu as établi celui-là, et le Seigneur dira, arrière de moi, vous avez eu une foi pour une bénédiction et pas pour l'éternité. Il faut faire vraiment attention. Il faut faire mais vraiment attention. Car Dieu agit à la dimension de ta foi. Et ce matin, je te souhaite d'avoir une foi, non pas seulement qui guérit le corps, mais d'avoir une foi qui te sauve pour l'éternité. Je vais demander à l'équipe de louange de venir devant ici. et nous allons glorifier le Seigneur. Pouvez-vous tenir debout?